au courrier des théâtres, c'est très simple.
C'est un duo avant l'orchestre. C'est le duo des récitants avant la guerre.
Ouvrez ce sein que je ne saurais voir.
Je pense qu'il vaut mieux que de sa propre bouche. Je tire avec douceur l'affaire qui me touche.
Roi des pitres, hors de scène à l'instant.
Mais parce que toute sa vie, parler en alexandrin ou cuisine, ça lasse.
Levée de rideau. Mise en scène par Sylviane sur Radio Alliance Plus.
Mais d'où vient qu'il est pris de cette fantaisie ?
Nous allons le savoir dans 5 minutes.
Bonjour, bonjour à tous. Aujourd'hui, dans Air de Rien, nous vous rendons compte, Christian Delors et moi-même, d'une conférence théâtralisée qui a eu lieu à Nîmes, à l'UFME. Une conférence théâtralisée dont le titre est « Comment défendre sa dignité ?» organisée, faite, rédigée, jouée par Gérard Noiriel et Martine Derrier. Ce spectacle a pour cadre l'exposition universelle qui s'est tenue à Paris en 1900. Cet événement extraordinaire a duré 7 mois, a rassemblé plus de 50 millions de spectateurs et a permis à la Troisième République de célébrer sa réussite industrielle, mais aussi sa conception des droits de l'homme tout en justifiant sa domination coloniale. Dans cette conférence théâtralisée, il y a de la danse, de la musique, des images, tout cela pour montrer à quel point les formes artistiques ont joué un rôle dans le processus d'émancipation. C'est dans ce but que je vous propose déjà en premier d'écouter un petit montage sur un film Lumière de 1897 qui parle du clown Chocolat et de Foutit.
Géo Foutit, le blanc, était anglais. Foutit n'était pas son vrai nom, ça voulait dire saute-mouton. On raconte qu'il donnait chaque soir à Chocolat 40 sous pour qu'il accepte de recevoir sans broncher toutes les gifles qu'il lui plairait de lui administrer. Demain, refoutite, rechocolat. Le film Lumière d'aujourd'hui, c'est le numéro 1140, Chaise en bascule, avec à nouveau les clowns Foutit et Chocolat. Chocolat, né à Cuba, s'appelait en fait Rafael Padilla. Il était le souffre-douleur de Foutit, le blanc un peu sadique. Son nom est entré dans la langue française, puisque l'expression « être chocolat », c'est-à-dire « être berné », vient de son personnage. Mais Chocolat ne se laissait pas toujours faire.
Pour cette conférence théâtralisée « Comment défendre sa dignité », nous écoutons d'abord Gérard Noiriel, puis Christian Delors, mais je vous en reparle bientôt.
Nous sommes à l'Institut de formation des métiers éducatifs ici à Nîmes et à l'occasion du passage de Gérard Noiriel et Martine Guerrier, Radio Alliance Plus a la possibilité de donner la parole quelques minutes à Gérard Noiriel. Bonjour Monsieur Noiriel.
Bonjour.
Nous sommes très heureux de vous voir, de vous entendre. Vous êtes venu à Nîmes pour donner une conférence théâtralisée. Mmh. Est-ce que vous pouvez nous parler, expliquer de quoi il s'agit ?
Eh bien, vous savez, moi, ça fait très très longtemps que je fais des conférences classiques d'universitaires sur des sujets qui sont aussi des enjeux civiques, de citoyenneté, etc. Et je me suis rendu compte à un certain moment que la forme, je dirais, habituelle de l'intervention de l'enseignant-chercheur, finalement, manquait son impact par rapport à des publics qui ne vont pas lire nos livres, etc. Donc, c'est ce qui m'a amené à tisser des liens avec le milieu des artistes, notamment du spectacle vivant, dont Martine Derrier, pour travailler ensemble autour d'une formule qui vise à traduire le contenu sérieux de mes recherches ou d'autres chercheurs, sociologues, historiens, etc., pour les rendre sous une forme plus ludique, plus accessible à des publics donc diversifiés. C'est pour ça qu'on a créé cette association d'éducation populaire.
Ah oui.
Voilà, qui touche donc, on tourne beaucoup dans toute la France, et principalement vers la jeunesse, quoi, vers les écoles, mais aussi les centres sociaux, les théâtres, les médiathèques, etc.
Et vous-même, vous êtes évidemment sociologue et historien. Vous avez publié, il n'y a pas très très longtemps, une histoire populaire de la France qui était très... on en a beaucoup parlé. Mmh. Et le théâtre, vous intéressez au théâtre déjà depuis longtemps, dehors de ce théâtre pour faire passer votre...
Je m'intéressais au théâtre un peu en tant que spectateur. Ouais. Et puis après, lorsque j'ai commencé à réfléchir sur ces questions de transposition, etc., je me suis mis à approfondir, notamment Bertolt Brecht, c'est une référence majeure pour moi, parce que lui-même avait déjà le souci de concilier ce qu'il appelait la science, telle qu'elle se faisait à son époque, et l'art, hein, la raison et l'émotion. C'est un petit peu les deux dimensions. Donc j'ai écrit un livre qui s'appelle « Théâtre, histoire et politique », qui tourne autour de ces questions-là, et on en a tiré aussi des enseignements pour notre propre pratique. Et c'est moi qui écris les textes de conférences théâtralisées pour nos interventions.
Et l'intervention que vous allez faire ici à Nîmes, à l'Institut de formation des métiers éducatifs, elle vise quel thème particulier ?
Le thème qu'on a choisi pour celle-ci, c'est donc la question de la dignité. Comment défendre sa dignité ? En fait, pour nous, très souvent, on procède comme ça. On part d'une question brûlante, d'une actualité brûlante, mais après, on va prendre du recul pour la transformer, j'allais dire l'universaliser et la réinscrire dans une profondeur historique aussi. Et donc là, la question de la dignité, en fait, c'est venu du crime qui a été commis contre un enseignant à propos des caricatures de Mahomet, etc. Oui. Puisque nous, on travaille beaucoup en région parisienne et un certain nombre de jeunes, d'élèves nous disaient « Oui, mais on ne peut pas toucher, c'est parce qu'on est atteint dans notre dignité. Oui. » Donc on s'est dit « Tiens, au lieu de rejeter ça d'un revers de main, comme c'est souvent le cas, on va prendre ça au sérieux. » Mais on va l'universaliser, c'est-à-dire, on va dire, oui, finalement, la question de la dignité nous concerne tous. Oui. Nous tous, on a eu des moments où, voilà. Mais comment défendre sa dignité de façon positive? Donc c'est ça qui m'a amené, moi, à faire le lien aussi avec la sociologie, avec des connaissances historiques, où j'ai voulu montrer que des personnalités, des savants, des intellectuels éminents, qui ont contribué à fonder la sociologie comme une discipline savante aux États-Unis et en France, comment, eh bien, eux aussi, au départ, c'est parce qu'ils avaient été atteints dans leur dignité. Donc voilà, c'est pour ça qu'on procède dans cette conférence théâtralisée à une comparaison entre Dubois, William Dubois, l'un des fondateurs de la sociologie américaine, qui a beaucoup souffert du racisme aux États-Unis, oui, et puis Durkheim, le fondateur de la sociologie en France, qui lui a été victime de l'antisémitisme. Oui. Donc il y a une confrontation entre les deux profils pour montrer justement comment, eh bien, on peut aussi défendre sa dignité, mais en enrichissant la culture humaine, donc au service de tous. Et puis dans la troisième partie, on parle du clown chocolat, puisque j'ai écrit deux livres sur ce clown, ça a donné un film, mais ça vient de notre spectacle au départ. Oui, oui, oui. Et donc ce personnage, moi, il m'a fasciné, parce que c'est un esclave au départ, il ne parlait pas le français, il était analphabète, donc je me dis comment, quand on appartient aux classes populaires, parce qu'autrement on a une vision, on voit uniquement les intellectuels, Mandela, etc. Oui. Moi je voulais aussi prendre un exemple, dans les classes populaires, comment cet artiste-là, avec ce qui savait faire, danser, faire la comédie, comment lui aussi avait défendu sa dignité, voilà. Donc c'est un peu un triptyque, comme ça, qui est présenté et qui est réinséré dans un contexte qui est l'exposition de 1900, l'exposition universelle de 1900, avec donc Martine Derrier, qui est la comédienne, qui interprète des personnages.
Alors, elle-même, elle joue aussi, donc...
Oui, elle joue, ah, oui. Elle fait beaucoup de choses, technique, elle fait... Donc elle a beaucoup de mérite, et oui, elle joue le personnage qu'on a appelé la fée électricité. Oui. Il y a toute une symbolique, évidemment, parce que l'expo de 1900, c'est un hommage aussi à l'électricité. Il y a le palais d'électricité et la statue qui représente la fée électricité. Mais dans les valeurs républicaines, comme on dit, eh bien, l'électricité, c'est la lumière. Mmh. Et la lumière, c'est la connaissance. Mmh. Donc il y a un peu, vous voyez, ce fil conducteur qu'on suit tout au long du spectacle autour de cette question aussi de la connaissance, une défense des principes de la connaissance.
Et vous-même, vous intervenez aussi en dehors du discours professoral, vous jouez. jouez d'autres?
Oui, alors je joue, hein, moi je joue à l'historien, j'allais dire, mais aussi de temps en temps, je joue, voilà, quelques personnages, des scénettes qu'on fait à deux. Ouais. Voilà, à un moment donné, je joue l'indigène dans le monde colonial, parce qu'on parle du racisme, ouais, le regard porté par les colonialistes sur, voilà, ce racisme biologique, par le fait. Donc je joue comme ça quelques petits personnages, mais pas grand-chose, de façon à donner de la dynamique quand même dans le spectacle. Voilà, mais ça reste modeste.
Mais votre sujet est tout à fait d'actualité avec ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, et particulièrement au Proche-Orient et ici en France et dans d'autres pays, aux États-Unis, en Europe, en France.
Tout à fait. Nous, ça fait un an qu'on l'a créé. Et je dois dire qu'effectivement, là, l'actualité, oui, c'est toujours d'actualité quelque part, oui, hein, ces questions-là, il faut bien le voir. Mais là, elle a ressurgi.
Elle est très sensible.
Très sensible. En ce moment, ça met même la société française. On voit ces polémiques, y compris dans le champ des chercheurs en sciences sociales, des polémiques terribles entre évidemment des gens qui s'identifient à des victimes et qui s'opposent comme ça, alors que nous, notre idée, c'est un peu de dépasser ce stade, hein, pour aussi prendre un peu de recul. Pour être capable, d'une part, de se montrer solidaire avec les victimes, mais aussi en même temps, eh bien, d'essayer de réfléchir pour trouver des solutions rationnelles qui permettent de dépasser le réflexe qui vise à haïr l'autre.
C'est ce qui est difficile,
d'autant plus difficile quand on est directement concerné. Ça, c'est sûr aussi qu'il y a cette dimension. Mais enfin, moi, ma conception de la laïcité, puisque c'est celle-là, c'est pas de dire aux gens ce qu'ils doivent faire, mais sur donner des armes pour qu'ils s'émancipent des contraintes qui pèsent sur eux, voilà, ou sur elles. Et ça, c'est une question universelle qui se pose de façon plus ou moins intense, selon évidemment les expériences vécues des gens, mais qui doit être aussi réfléchie d'une manière globale, y compris pour nos institutions. Parce que je crois qu'il y a parfois un discours, une sorte de prêchi-prêcha comme ça sur la laïcité, qui peut être contre-productif. Quand on écoute les jeunes, etc., ils ont l'impression qu'on leur refait une sorte de catéchisme comme ça.
Caricatures de la laïcité.
Des caricatures, voilà. Donc on sait que la laïcité, ça a toujours été un enjeu, hein, entre des conceptions, on dirait conservatrices, et des conceptions progressistes. Oui. Nous, on œuvre dans le côté progressiste, et c'est pour ça que l'enseignement de Durkheim est particulièrement important. Parce que Durkheim, c'est quand même aussi un sociologue de l'éducation, fondamentalement, et qui a cette idée de l'éducation comme principe d'émancipation, et pas d'endoctrinement. Donc c'est tout ça aussi qui est présent dans notre travail.
Et cette conférence-là, vous l'avez faite récemment déjà dans d'autres cadres.
Oui.
Et depuis ces événements du 7 octobre.
On l'a faite une ou deux fois. On l'a pas depuis les événements de celle-ci, parce qu'on en a plusieurs. Oui. Donc celle-ci, je crois qu'on a dû la faire. Deux ou trois fois.
Les débats, donc ça doit ressortir.
Dans les débats, oui, mais il y a après, chez les élèves, il faut voir, parfois il y a une sorte de grande prudence, de retenue. Donc c'est difficile d'amener les choses précisément en lien avec l'actualité. Ça, c'est difficile. On ne le souhaite pas forcément non plus. Parce qu'on se dit qu'ils peuvent faire aussi une démarche personnelle dans leur fort intérieur, comme on dit, qui aboutira à des évolutions. Donc, mais on aborde, oui, moi, clairement, j'aborde la question de la comment ces personnages ont défendu la dignité. Je pose la question aux jeunes aussi, comment vous y prenez, qu'est-ce que vous en pensez, etc. Et donc, parfois, ça donne où est-ce qu'on était, où il y a eu vraiment un très très riche débat là récemment. On tourne tellement que je ne me souviens plus des lieux, mais on a parfois des très bons retours de la part des élèves, mais ça dépend aussi du degré de préparation qu'ils ont eu avec leurs enseignants. C'est-à-dire on le fait surtout pour là, essentiellement. Celle-là, on ne l'a fait que pour des lycées. Oui. On en a une autre qui s'appelle Nos ancêtres, les migrants, qu'on fait aussi pour les collèges. Oui. Donc à partir de l'âge 11-12 ans, c'est bon. Mais celle-ci, là, c'est pour des lycéens, parce que c'est plus technique, c'est un peu plus compliqué. Et quand ça a été préparé avec les enseignants, c'est à Chartres, j'ai retrouvé au lycée de Chartres. Là, les profs de SES l'avaient bien préparé. Donc les élèves avaient déjà des connaissances sur le sujet, ils avaient déjà entendu parler de Durkheim, ils avaient voilà, la question du lien social, des discriminations. Donc évidemment, ça, on n'est pas complètement dans l'inconnu, quoi. Donc c'est aussi important pour nous, c'est pour ça qu'on dit toujours que c'est une co-construction de ce qu'on fait. C'est vraiment un lien avec les enseignants ou si on va dans les centres sociaux avec les éducateurs, etc., pour que ça ait vraiment son impact. Si on arrive comme ça dans un truc qui n'a pas été préparé, c'est pas la peine, ça sert à rien.
Et en tant que chercheur, vers où vous emmène vos recherches, toujours à l'approfondissement de cette réflexion et de cette pratique de la conférence théâtralisée, ou bien est-ce que vous continuez dans l'histoire, un peu comme vous avez fait pour l'histoire populaire de la France qui a...
Oui, j'ai écrit depuis un ouvrage avec un collègue sociologue qui s'appelle Stéphane Beau, qui s'appelle « Race et sciences sociales », parce que je pense qu'il est vital pour nos disciplines de prendre du recul par rapport à la médiatisation de ces polémiques, que ce soit le racisme ou l'antisémitisme d'ailleurs, parce que si les chercheurs se laissent prendre là-dedans, il n'y a plus de réflexion savante, il y a simplement des anathèmes, des polémiques, des accusations réciproques, etc. Et nous, on l'avait vu sur notre livre d'ailleurs, là, les réactions parfois très violentes que ce livre a suscité, parce que les réseaux sociaux, c'est devenu quand même des formes de communication terribles. Donc voilà, je continue un peu là-dessus, effectivement. Oui.
Bien écoutez, merci beaucoup Gérard Noriel pour cette... nous sommes désolés que vous n'ayez pas beaucoup plus de temps, mais enfin, merci déjà de nous avoir accordé ce moment. Revenez nous voir ici à Nîmes et nous donnerons plus amplement la parole.
Voilà, une prochaine occasion, on aura peut-être plus de temps. En tout cas, merci pour votre invitation.
Merci bien. Merci.
Sur Radio Alliance Plus, après l'interview de Gérard Noriel par Christian Delors, je vous propose d'écouter la bande-annonce du film « Chocolat ». C'est un film de 2016, un film de Roche Dizem, sur une idée d'un livre de Gérard Noriel.
Voici le roi nègre Kanang.
Cherche quelqu'un comme toi, quelqu'un pour renouveler mon numéro.
Tu cherches un nègre ?
Cherche un clown pour m'assister. Alors vas-y, fais-moi rire. Stop, c'était n'importe quoi. Tu crées pas de situation.
Non, 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 là, tu la prennes cette baffe, là, comme ça, non.
Hop là ! Hop là !
Je suis pas convaincu.
Tu nous laisses une chance.
C'est la première fois qu'un blanc me fait confiance.
Qu'un clown blanc te fait confiance.
Unis, comme ça. Tu me lâches pas du regard.
Il y a de la folie dans votre duo.
Messieurs, Paris vous attend.
J'espère que vous êtes au point parce qu'ici, ça passe ou ça casse, il n'y a pas de seconde chance.
J'ai confiance.
Et puis tu fais joli cœur avec Camille, t'es plus dedans.
Avec moi.
Pourquoi tu ris jamais?
Je ris dans ma tête.
Mais t'aimes rien? T'aimes pas les dés? Voir ça va, mais t'aimes pas trop sortir avec les filles? C'est quoi le mystère?
Ça y est, t'as fini.
Je veux plus être le faire-valoir de Footit. Je veux qu'on prenne au sérieux.
Avec Footit, vous avez révolutionné le monde du cirque. N'abandonne pas tout sur un coup de tête.
Tu veux tout pour toi, oui. Mais t'as la mémoire courte, mon ami.
Jamais un noir n'a été aussi célèbre que toi, Chocolat.
Vous venez d'écouter la bande-annonce du film Chocolat avec Omar Sy et James Thierrier. Et nous écoutons maintenant Christian Delors, que j'ai interviewé au studio après qu'il ait vu la conférence et nous en donne son ressenti. Bonjour Christian.
Bonjour Céliane.
Alors comment vous avez eu écho de cette conférence théâtralisée? Pourquoi vous avez eu envie d'y aller? Pourquoi vous avez interviewé Gérard? Bon, pourquoi? Beaucoup de questions. Alors, j'attends les réponses.
Eh bien, il s'est trouvé qu'au mois de septembre, un ami m'a contacté, m'a dit « J'ai appris que Gérard Noriel vient à Nîmes. Il faut absolument organiser une conférence avec lui. Est-ce que vous sauriez où on pourrait faire ça? La maison du protestantisme n'est pas libre parce qu'il y a la kermesse. Qu'est-ce qu'on fait ?» Alors, je lui ai dit « Écoutez, moi, je ne sais pas très bien. » mais donnez-moi des coordonnées des gens. Et on a reçu un coup de téléphone d'une dame qui nous a dit, voilà, je m'occupe de ce spectacle, et qui a expliqué en deux mots, il s'agissait de Martine Derrier, qui est metteuse en scène et actrice elle-même, et qui m'a expliqué un peu de quoi il s'agissait. Elle m'a dit, finalement, ça sera une conférence à l'Institut de formation des métiers de l'éducation à Nîmes. Et puis voilà, on s'est séparés là-dessus. Ça devait avoir lieu en décembre. Et puis, deux ou trois jours avant la fameuse conférence, elle me rappelle, elle me dit, ça y est, on est là, on arrive. Et vous-même, vous n'étiez pas disponible pour aller enregistrer Gérard Noriel. J'avais entendu parler de Gérard Noriel, qui est une très grande personnalité.
Une sommité, oui.
Et qui a écrit notamment un livre connu qui est l'Histoire populaire de la France. Et ça m'a donné envie de voir ce qu'il faisait. J'ai pu ainsi l'enregistrer.
Oui, il est directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Il a écrit de nombreux livres. L'exposition universelle, ça vous a beaucoup interpellé, j'ai l'impression.
Oui, ça, effectivement, c'est la conférence théâtralisée commence par là, une photo des grands monuments qui ont été construits pour cette occasion. Et ça a attiré énormément de monde. Et je ne savais pas que ça avait attiré autant de monde. 50 millions de visiteurs.
C'est énorme.
C'est fou, quoi.
Bon, il en reste que le Palais de Chaillot, c'est le seul monument qui reste, mais c'est quelque chose. Et puis la grande fresque de Raoul Dufy, La Fée Électricité.
Et puis je ne connaissais pas, moi personnellement, je ne connais pas Durkheim, et j'ai découvert ce sociologue américain dont il parle, un certain Dubois. Et d'ailleurs, la conférence commence ainsi. On voit un personnage noir. Alors, c'est lui-même. Gérard Noriel joue aussi un petit peu dans le spectacle.
Ouais,
il n'est pas là le maître de conférence. Il est aussi un peu acteur. Et donc, il est un peu grimé. Ou alors, on dit qu'il est noir. Et pourquoi il est noir? Bien parce qu'il a des ascendances. Il est blanc, mais il a des ascendances noires. Sans doute des Français protestants qui se sont réfugiés aux États-Unis. Et ce Dubois est un sociologue aussi, mais qui n'a pas exactement la même vision que Durkheim. C'était le moment où Durkheim était commencé à se faire connaître beaucoup en tant que sociologue.
Donc en fait, le but de cette conférence théâtralisée, comme le disait Gérard Noriel, c'est peut-être de rendre plus accessibles en fait ces questions quelquefois ardue, quelquefois rebutante même.
Tout à fait.
Et vous trouvez que le pari est gagné, c'est-à-dire les enjeux du multiculturalisme et de la laïcité sont bien évoqués.
Oui, il parle beaucoup de la dignité. Comment défendre sa dignité? Parce qu'il faut se souvenir donc que c'était aux États-Unis, il n'y avait pas du tout d'intégration à l'époque, et Dubois était noir et s'est battu pour que les Noirs puissent être reconnus. Et ici, en Europe, c'était en France, juste après l'affaire Dreyfus. Et donc, l'affaire Dreyfus est mal connue de beaucoup de jeunes, de lycéens. Donc, c'est une manière de faire connaître un peu la façon dont Durkheim, d'un côté, et Dubois, de l'autre, ont défendu leur dignité. Et comment on peut aujourd'hui, dans notre pays, défendre sa dignité quand on n'est pas exactement comme tout le monde.
Oui, surtout à notre époque, avec l'antisémitisme et l'extrême droite qui se réveille, c'est vraiment, qui se réveille, ou qui se développe encore plus, qu'on croyait que c'était, que l'antisémitisme devait être un fléau qui avait disparu. Je répète ma question, est-ce que, puisque c'est dans les métiers éducatifs, est-ce que vous trouvez vraiment que ça donne des réponses ou ça donne des méthodes aux enseignants? Parce que je vois qu'il y a de nombreuses dates prévues en lycée, en centres sociaux, en médiathèque, en MJC.
C'est une manière peut-être de rappeler à ces futurs éducateurs que éduquer, ce n'est pas simplement faire un discours. Aussi intelligent soit-il, qu'il faut s'impliquer un peu, qu'il faut faire rendre les choses vivantes. Et donc, je pense qu'un certain nombre d'éducateurs, les jeunes en général, peuvent découvrir qu'on peut parler, dire des choses très intelligentes et difficiles avec des images, avec du théâtre, justement. Et Noiriel s'est beaucoup intéressé et s'intéresse beaucoup au théâtre, justement.
Oui, on sent que c'est vraiment... Bon, c'est un homme très, très engagé. Et je trouve ça fabuleux, d'ailleurs, de vouloir vraiment rendre accessible. Et Martine Derrier donc assure cette partie théâtralisée avec des montages, des marionnettes, voilà. Des sketchs burlesques. C'est pour ça qu'on l'a mis dans le lever de rideau.
Voilà,
c'est un spectacle.
Elle arrive et on voit un personnage avec une couronne tout éclairée. C'est la fée électricité, parce que c'était vraiment aujourd'hui c'est le chat GPT. Mais à l'époque c'était l'électricité qui était la grande nouveauté pour au début du XXe siècle.
Vous retenez quoi comme argument justement dans le multiculturalisme ou la défense de la laïcité ?
Plutôt multiculturalisme.
Ouais.
On peut vivre dans un pays en étant différent et en même temps en ayant de bons rapports avec les autres. La laïcité ne m'est pas apparue, en tout cas dans la partie du spectacle que j'ai vue, parce que je n'ai pas pu voir tout le spectacle. Je n'ai vu qu'une partie, j'ai dû partir après. En plus, ils étaient très en retard, la SNCF avait des pannes.
Oh, voilà, c'est rare, ça. Donc, vous n'avez pas vu la fin, mais ça... Il faut rappeler que c'était à l'Institut universitaire de formation des métiers éducatifs. Vous n'avez pas ressenti de vulgarisation trop simpliste ? Le mot vulgarisation, quelquefois, est péjoratif, alors que c'est très bien la vulgarisation.
Non, c'était bien vu, parce que le spectacle alternait entre le discours de Noiriel et justement quelques images. Alors, à certains moments, Noiriel était lui-même un accusé, par exemple.
Oui, d'accord.
Accusé, levez-vous, et il se levait. Et puis, à d'autres moments, il avait un discours de professeur d'université.
Oui, parce que j'ai lu sa biographie et sa bibliographie. C'est un homme qui vraiment s'intéresse à... C'est un sociologue, un historien.
Oui.
Il a beaucoup travaillé aussi avec Marcel Trias. Dieu sait que j'aime beaucoup Marcel Trias dans les documentaires. Donc, comment conclure en fait cette conférence d'État ?
On souhaiterait qu'il puisse revenir à Nîmes.
Oui.
Et je pense que c'est très intéressant. C'est dommage que ça n'ait duré qu'un après-midi.
Ah, mais c'est déjà très bien. Et puis l'UFME se donne du mal, parce que c'est vrai que de très nombreux jeunes enseignants sont très inquiets dans cette époque douloureuse. Dès qu'on parle de judaïsme,
de
qu'on parle de différence, avec cette guerre en Palestine, avec l'Ukraine, on est vraiment confronté à ce problème.
Oui, parce qu'il y a toutes les différences. Alors, il y a les différences religieuses, mais il y a les différences, on pourrait dire, ethniques. Quand on voit dans nos villes des gens de toutes origines, des Asiatiques, des Africains, des Arabes, des Européens, comment cohabiter avec sa culture et sans qu'elle soit niée par les autres.
Vous n'avez pas l'impression que c'est un peu utopique tout ça, Christian ?
Écoutez, peut-être ce type de conférence aide à faire prendre conscience que ce n'est pas un enjeu nouveau, c'était ancien, mais qu'on peut...
Que la tolérance peut exister et le vivre ensemble. Merci à vous, Christian.
Merci.
Retrouvez toutes nos émissions en podcast sur radioalliance+.fr.